Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission de Sortir du nucléaire, Drôme Ardèche. Aujourd'hui, nous recevons Bruno Charréron de la CRIRAD, mais avant cela, nos deux billettistes, Agnès.
Bonjour, alors c'est aujourd'hui que sort le rapport, dit rapport gallois, qui a été demandé par le gouvernement pour évaluer la compétitivité des entreprises. Monsieur Gallois donc, a été successivement PDG de la SNECMA, de l'aérospatiale, président d'Airbus, de la SNCF, de ADS, administrateur d'Air France, de l'école centrale, de Thalès, d'Airbus. Enfin, c'est un monsieur qui est partout. Certainement très compétent, mais aussi très pro-nucléaire. Et la phrase qui a eu bien sûr des fuites et la phrase qui a circulé déjà dans les médias avant la sortie de ce rapport, c'est ce que dit Louis Gallois, « La France a deux richesses phares, le nucléaire et les gaz de schiste. Il est hors de question de faire l'impasse. » Inutile de vous dire que cette phrase nous a fait bondir au plafond. Et alors que ces derniers temps, dans les centrales, on collectionne les incidents, je peux vous en citer trois qui ont eu lieu dernièrement, le 25, 26 et 27 octobre. Flamanville, une fuite d'eau radioactive, environ 42 000 litres, ils se sont échappés dans le circuit primaire. Selon les employés, trois d'entre eux ont failli y rester par négligence. Et ils disent « on nous fait faire de plus en plus n'importe quoi uniquement pour le profit ». Un incident chez nos voisins de Romans à la FBFC. L'ASN parle de défaut de culture de sûreté et du manque de prise en compte du retour d'expérience. Ensuite, un incident aussi à La Hague, dans le Cotentin, rejet en mer d'eau radioactive. Et aussi un problème au niveau de stockage de fûts qui sont entreposés sur le site depuis les années 70. Bien sûr, tous ces incidents sont banalisés par l'ASN qui demande mollement à EDF la mise en sécurité. André-Claude Lacoste, le président de l'ASN, avait demandé la construction d'un noyau dur pour l'alimentation électrique et l'alimentation en eau froide et un ensemble d'équipements de diagnostic et de conduite et de gestion pilotables depuis une salle de repli bunkérisé, capable de résister aux agressions extrêmes. Il faudrait pouvoir vérifier que ces travaux sont en cours. Les stress tests effectués par EDF en 2011 donnent la France championne de la sécurité. Mais EDF faisant ses propres tests, tout le monde comme nous peut en douter de la validité. Concernant le refroidissement des centrales au niveau de la vallée du Rhône, de plus en plus de spécialistes pointent le fait que la température du Rhône a monté de 2-3 degrés et qu'au-delà de 28 degrés, les centrales n'ont plus le droit de puiser l'eau pour le refroidissement. En 2003, la centrale de Tricastin, lors de la canicule, avait obtenu une dérogation. Ces 2 ou 3 degrés ont aussi une influence sur le manteau neigeux et le débit du Rhône qui, du coup, devient plus brutal avec des fortes chutes de pluie, qui ne sont donc plus de la neige et qui dévalent les pentes des Alpes. Donc des risques de crues et d'inondations qui augmentent d'année en année. Il y aurait encore beaucoup à dire. Mais si vous voulez agir, vous pouvez aussi vous abonner à un fournisseur d'énergie renouvelable. Allez sur le site d'SDN 2607.
Merci Agnès. Écoutez, moi j'ai aussi de quoi râler un tout petit peu. C'est le week-end des 6 et 7 octobre 2012, EDF Cruas organisait des visites de la centrale et des réacteurs. Pour cela, il suffisait de s'inscrire au préalable et recevoir une confirmation du directeur de cette centrale. Trois adhérents et adhérentes de Sortir du nucléaire Drôme Ardèche ont donc fait part de leur souhait de visiter le site, partant du principe qu'une critique honnête doit être argumentée et nécessite donc une bonne connaissance du sujet traité. Le 25 septembre, nos trois compères ont donc reçu une confirmation de leur visite. On leur annonce que EDF leur fournira les protections nécessaires à une déambulation dans la centrale. Puis, surprise, le jeudi 4 octobre, soit 3 jours avant, ils reçoivent un courrier leur annonçant qu'ils ne sont plus conviés à cette visite guidée, et cela sans autre explication. C'est le directeur de la centrale lui-même qui signe ce refus. Parmi ces trois membres de sortir du nucléaire 2607, il y avait Pierrick Duflo, représentant de la FRAPNA, à la Cligette du Tricastin et à la CLI de la FBFC de Romans. Alors la Cligette, qu'est-ce que c'est? La CLI, qu'est-ce que c'est? Ce sont des commissions locales d'information qui sont composées d'élus, de syndicalistes, d'associations, de représentants d'Areva et d'EDF, et qui sont présidées par le Conseil Général. Bien sûr, la FRAPNA s'est offusquée de ce refus, mais rien n'y a fait. Les opposants au nucléaire sont interdits de visite sur le site de Cruas. Voilà encore une fois l'illustration de l'opacité du nucléaire, qui craint même que les antinucléaires lors d'une visite guidée. Pour faire passer le message « tout va bien, le nucléaire n'est pas dangereux », ces gens-là ont peur d'une simple contestation dans l'Assemblée. Ce qu'ils veulent, ce sont des moutons bien sages qui suivent le guide dans la centrale sans poser de questions gênantes. Mais attention, les moutons, c'est comme ça qu'on les mène à l'abattoir. Mais au-delà de ça, ce refus illustre également le fichage illégal effectué par EDF. Les renseignements généraux et la gendarmerie, consultés par nos soins, affirment n'avoir donné aucune information au directeur d'EDF. Il semble donc que ce fichage soit l'œuvre d'une entreprise en infraction avec toutes les lois dans le domaine. Initiative locale d'un directeur délinquant ou pratique courante d'EDF, nous comptons bien avoir une réponse de la justice, et cela, avec la poursuite judiciaire que nous donnerons, sera une histoire à suivre. Alors, nous sommes en compagnie de Bruno Charréron, ingénieur en physique nucléaire, responsable du laboratoire de la CRIRAD à Valence. Bruno, on se tutoie.
Oui.
Tu as fait plusieurs voyages en mai-juin 2011 au Japon et de nouveau en juin 2012, et en particulier dans la ville de Fukushima à la suite de la catastrophe de la centrale que l'on appelle Fukushima Daiichi. Et ce voyage était fait à l'invitation, pour le coup, là, de groupes de citoyens. On parlait d'un groupe qui s'appelait Projet 47, qui deviendra ensuite le CRMS, Citizen Radio City Measuring Station, animé par M. Wataru Iwata, qui est assez connu. Que demandaient ces associations à la CRIRAD et qu'est-ce que vous leur avez apporté exactement ?
En mars 2011, on a été très sollicité au niveau de la CRIRAD par des citoyens japonais qui souhaitaient acquérir un compteur GGR ou avoir des informations sur la contamination de l'environnement. Et parmi toutes ces demandes, il y en a une qui a retenu davantage notre attention, c'est celle de cet artiste, Wataru Iwata, qui est un musicien. On a été mis en contact avec lui par un chercheur du CNRS à Tokyo, Monsieur Thierry Ribaud. Et ce que souhaitait mettre en place Wataru Iwata et ses amis, c'était une structure qui s'appelle Projet 47. 47 parce qu'il y a 47 préfectures au Japon. Leur idée, c'était de veiller à ce que les citoyens des 47 préfectures aient des compteurs GGR pour mesurer la radioactivité. Donc la première chose que l'on a fait, on a envoyé à Wataru Iwata une dizaine d'appareils de mesure, des compteurs GGR grand public, mais aussi des appareils du laboratoire de la CRIRAD, des dosimètres professionnels, des compteurs GGR professionnels. Et on a tourné en urgence une petite vidéo un samedi après-midi pour leur expliquer en anglais comment faire des prélèvements, comment utiliser ces appareils, quelles précautions prendre. Et petit à petit, ça a suivi son chemin. Ce groupe s'est ensuite créé donc CRMS, Citizen Radiation Monitoring Stations. Donc c'est une structure indépendante qui a mis en place des laboratoires, cette fois-ci vraiment des laboratoires, c'est-à-dire des lieux où les citoyens peuvent amener des denrées alimentaires et les faire contrôler, peuvent eux également mesurer la radioactivité de leur corps à travers ce qu'on appelle des anthropogammamètres, c'est-à-dire les gens s'assoient sur un siège spécial qui permet d'enregistrer le taux de radiation qu'ils émettent et donc la contamination dans leur corps.
Et ils ont fait appel à vous pour avoir du matériel, ce qui veut dire qu'au Japon, pays hautement technologique, industriel, il n'y avait pas de ce matériel qui existait sur place ?
Alors d'abord, ce n'est pas seulement du matériel. En ce qui concerne le matériel, ils avaient effectivement beaucoup de mal à trouver des compteurs GGR parce que il y a eu une pénurie, beaucoup de gens se sont jetés sur les compteurs GGR. Et puis, ce n'est pas seulement le matériel, acheter un compteur, tout le monde peut le faire, c'est savoir s'en servir, c'est comprendre les becquerels, les microsieverts, les risques, comment se protéger, comment interpréter toutes ces mesures. Et ça, évidemment, l'expérience que la CRIRAD a acquise depuis 1986, suite à la catastrophe de Tchernobyl, était très, très précieuse pour eux, pour les aider à finalement faire ce que nous avons fait en France, dans des conditions beaucoup plus faciles pour nous, parce que c'était la CRIRAD est née après la catastrophe de Tchernobyl. Eux, ils sont nés en plein dans la catastrophe. Et il est clair qu'au niveau du stress psychologique, eux vivent une situation qui est absolument terrible, parce qu'ils vivent en territoire contaminé, donc déjà inquiétude pour leur santé, et ils reçoivent en permanence des familles, des enfants qui sont contaminés ou qui vivent sur des lieux contaminés. Donc ils ont à la fois une très forte responsabilité, et au niveau affectif, au niveau de la souffrance, ils sont en train de se ramasser dans la figure en permanence la souffrance de la population, et c'est vraiment très très dur.
Et alors, quand tu es retourné en juin 2012, ce projet donc de laboratoire indépendant dans toutes les préfectures, il était déjà bien mis au point. On peut dire que maintenant, dans à peu près tout le Japon, des centres se sont installés, ou c'est encore en voie d'installation ?
D'abord, nous, à la CRIRAD, on travaille pratiquement exclusivement avec cette initiative CRMS. Donc, CRMS a déjà aujourd'hui plus de 8 laboratoires principalement sur la zone de la préfecture de Fukushima, mais aussi ils en ont inauguré un il y a quelques jours à Tokyo. Donc je ne pense pas que pour l'instant toutes les préfectures aient des laboratoires indépendants, mais CRMS en a mis en place déjà une dizaine aujourd'hui. Et il y a bien sûr d'autres initiatives. À la CRIRAD, on ne connaît pas toutes les associations qui existent, qui se sont mises en place au Japon pour réaliser des mesures. Il y en a des dizaines. Des associations au sens vraiment non lucratif, protection de l'environnement, et aussi des groupes à vocation plus commerciale, qui sont là pour faire des mesures, mais dans un autre état d'esprit.
Oui, on fait de l'argent avec, avec tout. Alors, bon, justement, c'est RMS qui est installé sur Fukushima. Alors, pour rappel un peu pour nos auditeurs, la ville de Fukushima, ça compte 300 000 habitants à peu près. Hein. Elle est située à peu près 70 km de la centrale elle-même. En 2011, quand tu es passé là-bas, qu'est-ce que tu as constaté sur place? J'avais entendu dans une interview, vous aviez parlé d'un fort taux de radiation, plus de 300 000 becquerels par kilomètre carré, soit 10 fois ce qu'il y avait eu en France après Tchernobyl, et d'une pollution des sols au césium 137-134. Alors c'était à peu près en 2011, qu'est-ce qu'il y avait sur place à Fukushima ville?
Ben, disons, la ville de Fukushima, mais les alentours, c'est une situation qui est vraiment qui est choquante, qui est ubuesque, qui est invraisemblable. C'est-à-dire que quand on est parti de Tokyo en voiture, et plus on allait en gros vers le nord, plus c'était radioactif dans la voiture, avec le compteur GGR allumé en permanence dans la voiture. Et dans la ville de Fukushima, voir les gens vivre normalement sur des terrains aussi contaminés, avoir dans la chambre d'hôtel des taux de radiation, même au septième étage, on mesurait la radiation anormalement élevée dès qu'on s'approchait des fenêtres. C'est vraiment... Il faut l'avoir vécu pour se dire que c'est possible. C'est possible de laisser vivre des populations, des centaines de milliers de gens sur des territoires aussi contaminés. C'est vraiment bouleversant. C'est vraiment profondément choquant. Et moi, ce qui m'avait le plus touché à ce moment-là, c'était une femme assez âgée dans une ferme. Cette femme avait dû évacuer sa ferme, mais plus ou moins à sa propre initiative, et aurait eu l'autorisation d'y retourner quelques semaines après la catastrophe. Et elle nous a demandé d'aller mesurer sur son terrain, et on lui a montré avec le compteur GGR les taux de radiation, on lui a prêté le compteur pour qu'elle puisse s'approprier cette sensation de la radioactivité, voir que quand on approche du sol, c'est plus radioactif, quand on est près d'une gouttière, c'est plus radioactif. Bon, elle a pleuré, quoi. Elle était très émue, elle nous a vraiment remercié en disant « Merci de m'aider à voir les choses, à comprendre la situation. » Et elle a décidé, évidemment, suite à cette visite, de ne pas revenir sur cette ferme. Ça nous a vraiment permis de voir à quel point c'est important que les citoyens aient des appareils qui objectivent cette radioactivité, parce qu'on ne la voit pas, c'est invisible. Vous pouvez très bien déambuler dans les rues de Fukushima et ne pas du tout savoir que c'est radioactif, alors qu'avec un compteur GGR ou un dosimètre, vous le voyez tout de suite. Donc l'importance d'objectiver cette radioactivité pour aider les gens à prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire à partir ou à obtenir des décontaminations lorsque c'est possible, mais en tout cas qu'ils puissent s'approprier cette compréhension des choses. Ça, c'est vraiment très important, et c'est ce que fait CRMS de façon très efficace.
D'accord. Nous, dans la Drôme, on s'interroge beaucoup sur cette ville de Fukushima, parce qu'on est dans une situation, s'il y avait un accident dans une des centrales de notre région, on pense qu'on serait à peu près dans la même situation que ces gens. La ville de Fukushima est quand même à 70 km. Aujourd'hui, on nous dit que 70 km, il n'y a aucun danger. Là, dans Fukushima, donc, comme tu le disais, on voit des taux de radioactivité importants. Un an après, quand tu es revenu en 2012, est-ce que ça avait baissé? Est-ce que des mesures ont été prises par le gouvernement? Est-ce qu'on a évacué des populations dans cette ville de Fukushima et dans les villages alentours ou pas?
Alors la radioactivité, d'abord, elle a très peu baissé, puisqu'en fait il y a deux substances radioactives principalement qui sont au sol. Le césium 137, qui a une demi-vie de 30 ans, c'est-à-dire que sa radioactivité ne sera divisée par 2 que tous les 30 ans, et le césium 134, qui a une radioactivité de 2 ans. Donc par rapport à mai-juin 2011, la radioactivité n'a même pas été divisée par 2 aujourd'hui, et il y a dans la ville de Fukushima des quartiers qui sont beaucoup plus contaminés que d'autres, et où la population subit en ce moment des doses cumulées sur l'année qui dépassent très largement la dose maximale annuelle admissible, qui d'habitude est de 1 millisievert par an. Il y a en ce moment même, au moment où je vous parle, des endroits où les gens subissent plusieurs millisieverts par an. Le problème, c'est que le gouvernement japonais a décidé de retenir comme critère d'action, d'évacuation, une dose de 20 millisieverts par an, c'est-à-dire qu'on tolère, le gouvernement japonais tolère, que le risque de cancer de ces enfants, de ces populations, soit 20 fois supérieur au risque qui d'habitude est jugé inacceptable. Donc il y a eu des décontaminations plus ou moins sauvages, c'est-à-dire qu'il y a des gens, on a rencontré un restaurateur par exemple, qui a dû lui-même, avec ses mains, avec une pelle, racler la terre la plus contaminée, de l'évacuation des eaux pluviales devant chez lui. Mais aujourd'hui, on lui a montré avec le compteur, là, au mois de juin, il y a quelques semaines, ça reste très contaminé devant chez lui. On a des taux de radiation qui peuvent être 100 fois supérieurs à la normale au contact de ses pots de fleurs ou au contact du regard d'eau pluviale devant chez lui. Et cette radiation qui est sur le parking pénètre à l'intérieur du restaurant, par exemple, puisque les rayonnements gamma qu'émettent les deux césiums dont on a parlé tout à l'heure sont extrêmement puissants. Ils peuvent parcourir dans l'air des dizaines de mètres, ils peuvent traverser les murs des habitations, les vitres, et irradier les gens, y compris lorsqu'ils sont à l'intérieur de leur lieu de vie ou de leur lieu de travail.
On va revenir sur le sujet. Je vous propose d'écouter une chanson d'un groupe japonais qui s'intitule assez bien d'ailleurs, c'est « On ne voit rien et on ne sent rien » et c'est une chanson qui s'en prend très sérieusement à l'entreprise japonaise TEPCO. Alors nous sommes toujours en compagnie de Bruno Jarreron de la CRIRAD à propos de ses voyages au Japon et du soutien qu'il a apporté et que la CRIRAD a apporté à tous ces groupes qui aujourd'hui créent des entreprises, des associations similaires à celles de la CRIRAD au Japon. Georges, tu voulais poser une question à Bruno.
Oui, pour compléter ton intervention et ses réponses, il me semble qu'il y a un point qui n'a pas été abordé et qui est la limite kilométrique de la zone d'exclusion. Je crois que c'est 20 km. Alors en fait, là, Fukushima est à 70 km de la centrale. Est-ce que tu as des informations sur sur les effets de cette zone d'exclusion.
Oui, en fait, la zone d'exclusion initiale, elle a été conçue plutôt pour décider d'évacuer les populations dans les jours qui ont suivi la catastrophe. C'était une zone d'exclusion immédiate. Elle a été très mal définie, cette zone, et la CRIRAD, avec d'autres, a beaucoup critiqué ça parce que les panaches contaminés, en fonction de la direction des vents, n'ont pas obéi, évidemment, à un cercle de 20 km ou de quel que soit le périmètre de ce cercle. Il aurait fallu évacuer les gens bien au-delà, mais pour certains groupes de population, même au-delà de 100 km, parce que des gens dans les préfectures au sud et au nord de celle de Fukushima ont subi des doses extrêmement élevées pendant les premiers jours de cette catastrophe. Donc cette première zone d'exclusion a été très mal définie. Et aujourd'hui, la situation n'est pas meilleure, dans le sens où, dans la ville de Fukushima, par exemple, il y a des zones en ce moment où les gens subissent des doses inacceptables. Et c'est-à-dire que ces populations devraient être évacuées ou leur territoire décontaminé. Maintenant, pour la décontamination, c'est extrêmement difficile de décontaminer. On a visité, par exemple, au mois de juin de cette année, une maison qui avait fait l'objet d'une décontamination pilote. Les techniciens y ont travaillé pendant des mois. Ils ont raclé la moindre parcelle de terre dans les jardins japonais. Vous savez, ces jardins charmants avec des petits rochers, vous imaginez, pour décontaminer un jardin japonais, comme c'est difficile. Ils ont dû ébrancher les arbres en face de cette maison qui est en face d'une colline, parce que les dépôts de césium sur les branches et sur les feuilles irradiaient la maison qui est pourtant à, mettons, 30 mètres de la colline. Donc ils ont ébranché ces arbres, ils ont fait tout un travail colossal, mais qui certes a diminué le taux de radiation dans cette maison, mais à l'intérieur de la maison aujourd'hui, on a toujours un taux de radiation qui est, disons, 4 fois, 5 fois, 6 fois supérieur à la normale. Et cette personne, cette famille, y vit toujours. Et dans son jardin potager qui est à quelques mètres de la maison, le jardin n'a pas été décontaminé. Donc là, le taux de radiation est encore plus fort et il n'y a aucune demande de la part des autorités de ne pas cultiver des légumes dans ce jardin. Donc on est vraiment dans des situations qui sont ubuesques et qui, pour les populations, sont terribles. Parce qu'à partir du moment où les gens prennent conscience de cette radioactivité, c'est pour eux une douleur profonde, ça crée des scissions familiales. C'est-à-dire qu'il y a des familles où la mère va par exemple aller vivre plus loin, mettons à Tokyo, avec les enfants, et le père est obligé de rester sur place et de travailler. Ça crée des divorces, ça crée des souffrances qui sont énormes. Donc gérer cette catastrophe, une catastrophe nucléaire, c'est ingérable par définition, et l'exemple de Fukushima le montre très bien. On ne sait pas décontaminer des territoires aussi vastes. Il faudrait décontaminer sur plusieurs préfectures, pas seulement celle de Fukushima, et c'est très difficile de gérer toute cette souffrance et toute cette radioactivité. C'est-à-dire qu'en gros, ou bien les gens, on ne leur dit pas que c'est contaminé pour qu'ils puissent vivre dans l'insouciance, mais ça veut dire qu'on les laisse subir des risques de cancer à long terme et d'autres pathologies qui sont inacceptables, ou bien on leur dit la vérité, ce qui est le rôle de la CRIRAD et de CRMS, et à ce moment-là, ces gens sont devant des situations très difficiles. C'est pour ça qu'il faut que l'État japonais mettre en place une législation qui est en cours de discussion pour définir des critères d'évacuation, d'indemnisation, de décontamination, ce qui n'est pas suffisant, ce qui est absolument pas suffisant aujourd'hui.
On pourrait même parler, là, si je comprends bien, même de critères de secours, parce que tu disais que CRMS, par exemple, faisait des visites, examiner si les gens étaient eux-mêmes contaminés. J'imagine qu'ils ont dû rencontrer pas mal de gens qui avaient des contaminations, soit extérieures, soit intérieures. Ils sont pris comment en charge par le système médical japonais, par la société, ou est-ce qu'il y a une prise en charge? Parce qu'une fois qu'on sait qu'on est contaminé, c'est une chose, mais qu'est-ce que l'on fait après?
Alors ça aussi, ce sont des débats qui ont lieu en ce moment, c'est-à-dire de créer un statut de personne irradiée, de personne contaminée, pour que ces personnes aient un suivi médical gratuit pendant toute leur vie, soient indemnisées en cas de pathologie qui surviendra. Ça, c'est aussi un des combats, évidemment, que mènent CRMS et d'autres associations japonaises pour que les gens soient vraiment suivis médicalement et que ça soit gratuit pour eux, l'ensemble de ces soins. Maintenant, l'urgence, qui est urgente depuis déjà des mois et des mois, c'est que ces gens, on les soustrait à cette radioactivité. Il faudrait que ces gens puissent partir. Parce que quels que soient les efforts qu'ils font pour s'alimenter en utilisant des denrées qui viennent d'ailleurs, la radiation qui émane du sol, elle est là. Et si personne n'enlève cette contamination dans les premiers centimètres du sol, ces substances radioactives irradient ces personnes quand elles marchent sur le sol, sur la route, dans leur champ et même dans leur maison. Ça ne diminuera pas assez vite, ça ne diminue pas assez vite. Et c'est pour ça que là, il faut vraiment évacuer ou décontaminer. Et comme décontaminer, c'est assez irréaliste, la meilleure solution serait que les gens puissent évacuer. En tout cas, le combat de CRMS, et on les soutient complètement là-dessus, c'est de mettre en place des outils juridiques et financiers pour que les citoyens aient le choix. C'est-à-dire que s'ils veulent s'en aller, qu'ils puissent avoir une indemnisation qui leur permet de refaire leur vie, d'avoir un travail, d'avoir un logement dans une préfecture moins contaminée que par exemple celle de Fukushima. Donc ce cadre législatif est en train de se mettre en place. Il n'est pas au point aujourd'hui. On nous parle de fin de l'année. Ça tarde parce que plus le temps passe, plus ces gens cumulent des doses de radiation, dans beaucoup de cas inacceptables.
Justement, j'aimerais intervenir sur les indemnisations. Moi, j'aimerais plutôt entendre parler de soins et quel type de soins on peut amener aux cancers qui sont en voie de développement et peut-être même pas déclarés. J'ai mis des doutes quoi, sur le...
Non, quand je parle d'indemnisation, c'est vraiment... C'est un soin en ce sens que c'est soustraire ces gens à la radioactivité qu'ils continuent à subir. Parce qu'il y a deux problèmes. Il y a les doses que ces gens ont subies jusqu'à aujourd'hui, qui sont dans certains cas des doses extrêmement élevées. Et puis il y a... empêcher que ces gens continuent à accumuler des doses. Parce que le risque de cancer et les risques de pathologie, il est cumulatif, vous le savez. Donc plus on les laisse longtemps sur ces territoires, plus on augmente le risque qu'à terme, ils développent des pathologies. Après, comment soigner ? C'est toute la question, c'est très difficile. Déjà, il faut surveiller la santé des gens. C'est-à-dire qu'en cas de survenue, par exemple, de nodules thyroïdiens, pouvoir mettre en place des traitements adaptés le plus tôt possible. Mais c'est extrêmement difficile.
Oui, non, mais effectivement, pour revenir un petit peu justement à la réaction un peu des Japonais face à cette situation-là, si on t'entend bien, ça veut dire qu'il faut quasiment évacuer toute une ville comme Fukushima, par exemple, aujourd'hui, 300 000 habitants, je le disais tout à l'heure, mais aussi les centaines de milliers d'habitants qui habitent dans un rayon à peu près de 70 à 80 kilomètres autour de la centrale. On voit bien la difficulté par rapport au gouvernement. Alors, il y a un mouvement qui s'est créé, alors, avec des centres comme CRMS, mais il y a aussi maintenant un grand mouvement japonais, enfin anti-nucléaire, un grand mouvement qui vient de se constituer. On a appelé ça le mouvement des Hortensias. Quand tu es retourné en 2012, je ne sais pas si tu as vu un peu l'évolution de la population à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus de subir, mais des gens qui commencent à réclamer aujourd'hui un arrêt total et complet du nucléaire. Est-ce que ça commence à percer dans la population japonaise, le peu que tu as pu voir ?
Justement, ce que j'ai vu est trop limité pour donner une vision d'ensemble. Il y a évidemment le mouvement antinucléaire au Japon, qui n'existait pour ainsi dire pas, est en train de se développer, ça c'est évident. Mais à l'inverse, il y a aussi un mouvement de négation de la réalité, y compris pour les populations. C'est-à-dire que alors qu'en juin 2011, tous les gens qu'on a rencontrés étaient extrêmement ouverts pour qu'on fasse des mesures et qu'on témoigne des résultats, c'est-à-dire y compris qu'on filme les mesures pour les mettre sur YouTube par exemple, autant là en juin 2012... Dans plusieurs cas, les gens nous ont laissé faire des mesures, nous ont demandé les résultats, mais n'ont pas souhaité que l'on publie ces résultats de manière nominative. Parce que, par exemple, telle personne a un restaurant et elle ne veut pas qu'on voit sur YouTube le niveau de radioactivité devant son restaurant parce qu'elle va perdre sa clientèle ou elle va se faire mal voir par les voisins. Un autre site qui accueille des personnes handicapées ne veut pas qu'on voit sur YouTube le niveau de radiation réellement devant le parking carrément de ce lieu parce qu'ils ont peur que plus personne ne vienne dedans. Donc par rapport aux gens qui subissent la radioactivité, il me semble que par rapport à l'année dernière, il se passe un changement, c'est-à-dire en quelque sorte, si les gens veulent survivre là, il faut pratiquement qu'ils deviennent aveugles et sourds à cette réalité parce que sinon elle est insupportable sur le plan psychologique, sur le plan économique, etc. Et ça,
c'est une forme de déni.
Oui, je pense que il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux qui vont vraiment se battre contre cette réalité, donc exiger d'être évacués, d'être indemnisés dans le sens de pouvoir décontaminer leur maison. Et il y a ceux qui vont plutôt se mettre en situation d'aveuglement pour arriver à survivre à cette situation. Maintenant, par rapport au mouvement antinucléaire, la position officielle, c'est très ambigu parce que le Japon a pas mal de projets de vendre des centrales à l'étranger, en Lituanie, au Vietnam, en Chine, et en utilisant à la limite Fukushima comme finalement quelque chose de vendeur, c'est-à-dire en disant « les Japonais, nous avons réussi à vivre la situation de Fukushima. Donc nous savons comment décontaminer, nous savons comment gérer une catastrophe nucléaire. Donc utiliser nos centrales parce qu'on a une expérience de la gestion de crise. C'est quand même incroyable.
Oui, c'est d'autant plus incroyable que l'on sait que bien avant l'accident, TEPCO savait que ces centrales ne supporteraient pas un tsunami important et qu'ils l'ont caché et qu'aujourd'hui, effectivement, ils se vantent de pouvoir construire les mêmes centrales ailleurs avec beaucoup plus de sécurité. C'est assez surprenant. Georges, tu voulais poser une question.
Oui, dans cet ordre d'idées, malgré ce qu'on a appelé la révolution des Hortensias, c'est-à-dire le mouvement des citoyens... Qui a été très important en juillet pour demander l'arrêt définitif du programme nucléaire. La réaction du gouvernement Noda, le 14 septembre, annonce cet arrêt définitif et progressif de la production nucléaire d'ici à 30 ans. Et donc 15 jours après, le 1er octobre, J. Power, c'est un constructeur japonais, a repris les travaux de construction du réacteur d'Oma, la préfecture d'Aomori, après que le ministre Yukio Edano ait annoncé rapidement que le gouvernement acceptait d'autoriser le chantier de 2 réacteurs. Ce même gouvernement a ensuite renoncé à adopter officiellement l'objectif d'arrêter toute production nucléaire d'ici 30 ans. Et c'est donc attiré les foudres de la presse nippone dénonçant une cacophonie.
De toute façon, là, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de près dans la durée. Le rapport de force est tel... il faut que les citoyens, et c'est là où la CRIRAD, le CRMS, toutes ces associations ont un rôle très important à jouer, c'est éduquer les citoyens, leur donner des informations pour faire face à ce négationnisme de cette radioactivité, parce que en face les lobbies sont extrêmement puissants. C'est particulièrement vrai au Japon, également au niveau de l'infiltration du monde politique d'une société comme TEPCO. Est en capacité d'approvisionner financièrement des partis politiques, par aussi les médias, par le poids de la publicité. Donc il y a une puissance du lobby nucléaire en France, évidemment, mais au Japon aussi, qui est énorme. Et pour que les citoyens arrivent à faire entendre leur voix, c'est un combat qui va être très très long. Et nous, on a une responsabilité, effectivement, de les aider à objectiver cette réalité, à leur donner des outils pour qu'ils puissent être plus forts dans leurs revendications.
J'entends bien et je soutiens cette idée de donner les informations aux citoyens. Il y a effectivement une information que je veux rappeler brièvement, c'est-à-dire que sur les 6 réacteurs de la centrale de Fukushima, 3 ont fondu partiellement pendant et après la catastrophe. Il s'agit des numéros 1, 2 et 3. Le numéro 4, en partie détruit, habite au deuxième étage d'une piscine de combustible usagé, soit 1500 bars, soit l'équivalent de 3 cœurs de réacteur, soit 264 tonnes, 50% de plus qu'à Tchernobyl. La grue intégrée au bâtiment qui permettait de charger et décharger ces bars est hors d'usage. Donc il n'est pas possible de laisser ces bars dans la piscine car un séisme supérieur à 6 créait une brèche laissant échapper l'eau. Donc le combustible non refroidi à l'air libre... Si sa température dépassait 700 degrés, le risque de contamination de ces barres dégradées, car non refroidies, s'étendrait bien au-delà du périmètre de la centrale et n'est pas exclu qu'une partie du territoire japonais soit contaminée, ainsi que d'autres pays. Il faut y ajouter récemment une poutrelle de 7 mètres de long et de 470 kg tombée par erreur dans la piscine. Voilà, donc...
Ça montre bien toute l'inquiétude légitime qu'il faut avoir vis-à-vis de cette centrale de Fukushima. Fukushima, c'est pas fini. La centrale continue à rejeter de la radioactivité en permanence dans l'environnement, parce qu'elle n'est pas, le site n'est pas étanchéifié. Il y a toujours des rejets. Aujourd'hui, en ce moment même, en permanence, il y a des rejets de poussière radioactive depuis cette centrale. Et effectivement, la question de la piscine, d'une des piscines, est une vraie préoccupation. C'est l'occasion aussi de rappeler d'ailleurs que c'est pas qu'au Japon. On nous parle beaucoup des centrales nucléaires dans leurs enceintes confinées, mais il faut savoir que dans de très nombreux pays, les combustibles usés, qui sont la matière la plus radioactive qui soit, sont stockés dans des piscines qui ne sont pas en général sécurisées. qui ne sont pas dans des enceintes parfaitement confinées. C'est le cas dans beaucoup de pays. C'est le cas également aux États-Unis, par exemple. En cas d'acte terroriste ou d'accident majeur sur une piscine de combustible usée, on peut avoir des situations qui sont effectivement catastrophiques. Et il faut penser aux opérateurs, aux ouvriers, aux techniciens qui essaient de maintenir un peu la situation cas un cas d'une manière acceptable. Ce sont des gens qui se prennent des doses de radiation énormes. Et voir que Tchernobyl, c'est toujours pas résolu, la question du sarcophage de Tchernobyl, il faut voir que là, on a 4 réacteurs nucléaires sur un site hautement contaminé. Et c'est vraiment c'est quelque chose de terrible à gérer. Et il faudra des décennies pour venir à bout de cette catastrophe.
Bon, malheureusement, on va clore cette émission. On te remercie beaucoup, Bruno, d'être venu aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, sur cette affaire-là, on aura l'occasion peut-être même de te réinviter. Tu retournes bientôt au Japon, c'est prévu ou pas ?
Il n'y a pas de prévision à court terme pour le moment.
Bon, ça veut dire que CRMS fonctionne bien et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. On te remercie beaucoup. Pierrick, à toi.
Oui, alors, je vais vous présenter l'agenda à venir pour le mois de novembre. Il est assez chargé. Il y a donc en tout premier au péage du Roussillon, le 10 novembre, l'association Vivre Ici Environnement qui organise tout un tas de choses avec des exposants, des clowns, des spectacles, des conférences. Il y aura des romans graphiques musicaux, etc., etc. Ça commence à 17h. À 20h30, il y a une conférence avec Jean-Marie Pelt, conférence spectacle, qui est payante à 5€ l'entrée. Je vous invite à aller sur leur site internet vivreicienvironnement.org pour avoir plus d'informations. Ensuite, il est prévu le 23 novembre au rond-point des Auréats, comme d'habitude, une action pique-nique. C'était très sympa la fois dernière, c'est très bien passé, on commence à être rodé. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour passer un bon moment, vous ramenez votre petite gamelle et on dénoncera le gaspillage énergétique lié à l'éclairage, le suréclairage de ces ronds-points. Ensuite, le 25 novembre, il est prévu à 10, à l'initiative du collectif Sortir du nucléaire Andromardèche et de sa commission Réaction en chaîne humaine, une chaîne humaine donc qui aura lieu Place de la République de 14 à 16 heures. Plus de renseignements sur notre site internet. Également, si vous souhaitez participer à notre réunion mensuelle, n'hésitez pas, ça aura lieu donc le 26 novembre, c'est le 4e lundi de chaque mois, c'est à 18h30 à la Frappenave. Vous êtes les bienvenus. Et enfin, ce qui est très important, c'est de ne pas rater le 28 novembre à la fin du mois est organisée une projection débat qui aura lieu au Luxe à 20h, le cinéma en centre-ville en face La Fontaine, où il est prévu une intervention donc, de Bruno Charreron qui nous donnera des informations complémentaires sur la situation de Fukushima. Et il y aura la projection du film Fukushima, une population sacrifiée, un film de David Zavaglia. J'espère pouvoir vous compter très nombreux lors de cette projection débat très riche.
Et ce serait l'occasion pour moi de faire une petite correction, parce que je parlais de 300 000 becquerels par kilomètre carré à Fukushima, et c'est 300 000 becquerels par mètre carré. Voilà, je te laisse la fin.
Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler notre répondeur au 0805 69 67 58, numéro gratuit, je le rappelle. On a pu écouter Myriam Makeba, pardon, L'Enfant et la Gazelle, en tout premier, Rankin and Dub, Anibou Band, donc c'était le groupe japonais qu'on a pu entendre, et tout de suite, on va entendre Renault, 26 avril. Merci à tous.
Un sarcophage de béton, triste présage, macabre nom, une fragile chape de plomb, pour un futur nommé Armageddon. Armageddon, les maisons, le ciel, la terre, les hommes, les enfants, les rivières, les animaux, la vie entière ont disparu dans la poussière, dans la poussière nucléaire. Pas encore mort, surgit la sombre aurore. Ce monstre invisible qui dévore. Les apprentis sorciers d'hier sont toujours bien vivants, prospères. Les marchands d'armes sont milliardaires. EDF nous éclaire, nous éclaire.